Cette émission vous est offerte par la bière Wachtainer, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753, distribuée au Togo par la SNB. Wachtainer, la vie dorée.
Mesdames et messieurs, bonjour, merci de nous choisir dans cette émission Club de la Presse. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous, déjà à partir de 11h pour ces instances. Alors, lors de l'émission Club de la Presse au Gabon, l'élection présidentielle est fixée au 12 avril 2025. Ceci marquera la fin de la transition dans le pays des Bongo. Le dépôt de candidature a démarré hier jeudi dans le pays. Plusieurs associations émergent pour appeler à la candidature du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema. Le samedi 8 février dernier, un nouveau mouvement Oligui Nguema 100% a vu le jour, fondé par 24 députés, 8 sénateurs, des hauts cadres de l'administration ainsi que des leaders associatifs et politiques. Ils militent activement pour la participation du chef de la transition à l'élection. Que vous inspire cette actualité? Je poserai la question à mes confrères en studio avec moi. Nous parlerons d'autres sujets lié à l'actualité de notre pays, le Togo, dans cette émission Club de la Presse de ce vendredi 28 février 2025. Bienvenue au Club. Pour la coordination de l'émission de ce jour, Kiki Sousa sur la mise en onde. La mise en ligne est assurée par Jérôme Dakoucha. Je suis Pascal Lossou au micro. Nos salutations fraternelles à vous tous qui nous suivez partout au Togo grâce à nos radios partenaires. Radio Lumière à Aného, Radio La Paix à Takwame, Central FM à Sokodé, Sky FM à Badou, Radio Daoul à Bassa, Sama FM à Baga près de Niamtougou et puis Radio Courtoisie à Dapan. Vous avez aussi ce privilège de nous suivre partout dans le monde grâce à nos différentes plateformes digitales, notamment notre chaîne YouTube et aussi notre page Facebook. Vous pouvez aussi nous suivre sur nos radios partenaires en ligne, Ibn Radio et Radio Le Bénin. De la presse, vous le savez très bien, c'est le décryptage, l'analyse et le débat sur l'actualité de notre pays. Et c'est avec nos confrères journalistes en studio avec moi, sans oublier bien sûr que c'est ce débat touche aussi l'actualité du continent africain et aussi du monde entier. Et bien sûr, nos confrères sont déjà en studio avec moi. Et Firmin Takouagbo, bonjour.
Bonjour Pascal Ossou, merci de m'avoir invité.
J'espère que tu vas bien.
Ouais, nous allons tous bien par la grâce de Dieu. Sa grâce nous a été suffisante, elle nous sera toujours suffisante.
Et comment la semaine ça s'est bien déroulée?
Oh, là, ça s'est déroulé avec beaucoup de travail. Vous savez que nous, actuellement, nous, au niveau du Centre de recherche des géopolitiques internationales, Firmin Takouagbo, nous essayons de programmer un certain nombre d'activités. N'oubliez pas que nous avons été avec les compteurs routiers en janvier pour parler de, dans le cadre de notre projet, nouveau projet que nous avons lancé le 6 janvier dernier, la citoyenneté selon les nouvelles institutions de la République. Il faut savoir que les règles de la citoyenneté ont changé parce que nous passons d'une République à une autre. Il y a les droits et devoirs qui sont contenus dans cette constitution. Il faut que les citoyens connaissent cela. Par exemple, il y a la déclaration solennelle qui est là au niveau de la partie annexe de la constitution. Il y a le préambule, il faut que les gens connaissent. Et puis les nouvelles institutions à mettre en place, il faut que les gens sachent qu'il y a un certain nombre de mouvements institutionnels dans notre pays à faire. Donc, et puis appeler toujours les gens au respect des règles civiques, la soumission à l'autorité de l'État, je dis bien l'autorité de l'État, respecter les règles qui régissent notre pays et appeler à un sens de patriotisme. Moi, j'ai toujours l'habitude de dire que si les Occidentaux, ils sont à un niveau où que nous envions aujourd'hui, c'est seulement deux choses. Le civisme, c'est-à-dire le sérieux, le respect de la loi publique ou de la loi républicaine et le sens du patriotisme. Les gens peuvent mourir pour leur pays. Les gens sont pas les États-Unis qui sont là. Si vous suivez leurs films, leurs histoires, ceux qui ont construit les États-Unis, ils n'avaient pratiquement rien gagné. Mais aujourd'hui, on voit de grandes bâtisses aujourd'hui. On voit de grands immeubles, de grandes routes, de grandes autoroutes. C'est parce que les gens se sont sacrifiés au nom des États-Unis. Make the America great again, comme Donald Trump est en train de le faire. Ce qu'il est en train de faire, c'est arriver à positionner encore davantage les États-Unis sur la toile du monde. D'accord. Donc, c'est le patriotisme. Quand vous voyez, quoi qu'on puisse reprocher à Vladimir Poutine, c'est le patriotisme. Il défend la Russie. Il défend l'URSS. Nous sommes dans cette dynamique-là.
Merci beaucoup, Firmin. Kofi Annani, bonjour.
Bonjour Pascal et bonjour aux auditrices et auditeurs de Canal FM.
J'espère que vous allez bien.
Je vais très bien par la grâce de Dieu. Et vous?
Ça va aussi par la grâce de Dieu.
Merci le Seigneur.
Voilà, vous êtes observateur et aussi analyste politique. Et vous intervenez surtout alors dans cette émission pour faire des analyses avec nous. Ça fait toujours plaisir de vous avoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu à notre invitation.
Merci Pascal, c'est plutôt moi qui vous remercie. J'aimerais un mot introductif dire ceci. C'est une remarque que j'ai faite. Les casques que nous avons sur le marché togolais, les casques qu'utilisent les usagers de la route, sont de très mauvaise qualité. Et je pense que le moment est venu pour les autorités compétentes de...
Non, mais quand vous dites que ces casques sont de mauvaise qualité, c'est sur la base de quoi? Est-ce que c'est... Il y a une étude qui a été faite?
Oui, moi j'ai fait des observations. J'ai eu des proches et des personnes, des amis qui ont été impliqués dans les accidents de la route, qui portaient des casques, mais le dommage qu'ils ont subi de ces accidents-là sont très très importants. D'importantes lésions au niveau de la tête. Il y en a qui ont rejoint les ancêtres même après avoir porté des casques. C'est ce qui m'amène à dire que la qualité de nos casques est très douteuse. Je pense que les autorités compétentes doivent fixer des règles qui régissent la venue ou bien l'importation des casques sur nos territoires. Vous savez, nous avons des casques qui non seulement protègent le crâne, mais aussi protègent une partie importante du visage, la bouche, le nez, ses consorts. Je pense que si nous avons de ces casques-là et à un prix abordable pour le citoyen lambda, je pense que ça nous permettrait de nous protéger efficacement si nous avons décidé d'utiliser des motos. Mais ce que nous avons là aujourd'hui, ce ne sont pas des casques de bonne qualité. Il appartient aux régulateurs, il appartient aux autorités compétentes de faire en sorte de bannir les casques de mauvaise qualité pour permettre à ce que ceux-là qui sortent avec les motos, même s'il y a accident, même s'il y a un problème, ils puissent revenir sains et saufs.
Mais oui, c'est vrai que ce que vous évoquez, c'est relatif parce que au fin fond, il y a des casques quand même de bonne qualité et qui sont aussi chers. Si peut-être vous misez sur le prix, je comprendrai, Monsieur Kofi.
Parce que je ne mise pas sur le prix. Prenez des entreprises comme Haoju qui produisent des motos, qui font venir des motos sur le territoire togolais. D'autres entreprises, par exemple, ils ont une qualité de casque standard. Et cette qualité de casque standard-là n'est pas ce dont nous avons besoin sur le territoire. Ce sont ces casques-là que je dénonce, si je peux le dire ainsi. Nous avons d'autres casques, comme vous venez de le dire, qui sont de très bonne qualité, mais qui sont chers. Mais pourquoi est-ce que le régulateur, pourquoi est-ce que les autorités compétentes ne vont pas négocier avec une entreprise comme Haoju? Écoutez, les casques que vous faites plutôt venir sur le territoire togolais, c'est pas bon pour nous. Essayez de nous produire quelque chose comme ce que nous avons là, mais à un prix qui permette aux citoyens lambda de pouvoir s'en procurer. Ou soit, quand vous faites venir les motos, normalement, il y a des casques qui accompagnent les motos. Que ce ne soit pas ces casques-là que nous avons, qui changent leurs casques. Qu'ils aient au moins la conscience de ou bien la bonne foi de nous faire venir des casques qui nous protègent réellement.
D'accord, voilà. Le message est passé. Merci. Cyril Sablassou, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour Monsieur Kofi, bonjour Firmin.
J'espère que vous allez bien.
Voilà, nous allons bien. Et Dieu merci d'être ici ce matin et de partager ce plateau avec vous.
Merci d'avoir répondu à notre invitation. Oui, mais Kofi, quand vous parlez alors de casque maintenant, je voudrais quand même qu'on fasse la transition rapidement pour parler de cette exigence que le mouvement MMLK est en train de faire concernant surtout les accidents de la route constatés ces derniers temps dans la circulation et aussi, puisque ces derniers temps, nous avons toujours appris un certain nombre alors d'accidents et là, malheureusement, il y a des victimes et il y a des décès qui en sortent. Et le MMLK exige les états généraux alors des transports routiers. C'est ce que nous dit ce matin le journal Temps Nouveau. Le journal Temps Nouveau qui écrit « Sécurité routière, le MMLK exige les états généraux des transports routiers ». Alors, au-delà de la question de casque, est-ce que aujourd'hui tel que le MMLK l'exige, est-ce qu'on n'a pas besoin d'aller vers les états généraux de justement des transports routiers?
Merci Pascal. Je dirais que je suis totalement d'accord avec le mouvement Martin Luther King, dirigé par le pasteur Edo Comi. Mais au-delà de cette demande qu'il est en train de faire, je pense qu'il y a un aspect important que nous oublions. Si aujourd'hui nous avons un nombre élevé, alarmant d'accidents sur nos routes, c'est en partie dû à l'incivisme de nos populations. Vous voyez, des gens qui sortent de leur maison, qui ont des engins défectueux, ou des engins qui, en temps normal, devraient subir des visites techniques, mais qui n'ont pas été faites. On se lève le matin, on ne vérifie pas son engin, on se dit, bon voilà, je l'ai démarré, ça marche, on se met en route. Et sur nos routes, c'est comme s'il n'y avait pas de code à être appliqué par ceux-là qui utilisent la route. C'est comme si tout le monde veut se dire, bon voilà, c'est moi qui ai raison, c'est l'autre qui n'a pas raison, et c'est qu'on sort. D'un côté, pour ceux-là qui utilisent les motos, pour ceux-là qui utilisent les voitures. Maintenant, de l'autre côté, au niveau des poids lourds, il y en a de ces conducteurs-là de poids lourds, ou bien des propriétaires de ces poids lourds-là, qui, au lieu de, avec l'expérience qu'ils ont, au lieu de donner les véhicules à des gens qui ont l'expérience ou bien la capacité de pouvoir les conduire, on remet ces véhicules-là à des jeunes qui sont en apprentissage, qui ont juste peut-être commencé 6 mois, 9 mois, et ceux-là se mettent sur nos routes et causent des dégâts importants. Donc, pour moi, ce que nous devons faire, c'est de conscientiser d'abord le citoyen togolais qui fait usage de nos routes à travers soit les motos, soit les véhicules, les petits véhicules d'abord et aussi les poids lourds. Si nous arrivons à prendre conscience réellement du danger que nous comportons pour nous-mêmes en utilisant la route de façon inconsciente et pour l'autre qui utilise la route, je pense que ça va réduire en grande partie les accidents que nous avons sur nos routes. Le premier état des lieux dont nous avons besoin, c'est un état des lieux de nous-mêmes, en tant que citoyens, en tant qu'usagers de la route.
D'accord. Quand on parle aujourd'hui des accidents de la route, c'est vrai, il y a d'habitude, c'est l'usager de la route qui est toujours victime alors de cela. Mais au même moment, il y a des contrôles qui doivent normalement être faits sur la route pour que, celui-là qui prend un engin défectueux, que cela soit totalement arrêté dans son élan.
Vous savez, la situation telle qu'elle se présente dans tous les domaines, ou dans le domaine des transports, nous n'aurons que les accidents comme nous les avons toujours aujourd'hui. On peut peut-être avoir un taux qui baisse.
C'est une fatalité.
Non, c'est pas une fatalité. Moi, je parle même de façon scientifique. On peut avoir peut-être un taux qui va baisser cette année. On va parler un peu peut-être l'année prochaine. Le taux va encore s'élever. On va toujours être surpris d'avoir de voir de graves accidents. On va toujours les dénoncer. Ça veut dire quoi? J'ai l'impression que nous sommes victimes. Je ne parle pas du Togo, mais je parle de l'Afrique, au fait. De notre incapacité à nous adapter au système moderne. C'est comme M. Kofi le disait tout à l'heure, il dénonçait un peu le fait qu'on ait des casques un peu bizarres. Moi, je me dis, j'ai compris à un moment donné que nous, dans le monde, nous sommes dans une situation d'aïmoluto, quoi. C'est-à-dire, quand vous avez 100 francs et vous allez chez Aïmoloto, il va vous servir. Peut-être quelqu'un qui, aussi, qui a 1000 francs va laisser le même Aïmoloto, on va le servir. Il a 10 000. On va acheter Aïmoloto. Aïmoloto va le servir. Nous tous, nous avons dit que nous avons Aïmoloto. Mais c'est à des degrés différents. Vous croyez que les casques, les motos qu'on nous envoie ici au Togo, c'est le même moto qu'on envoie, que les Chinois envoient aux États-Unis? Vous croyez que les jeans que nous avons ici, que les Chinois nous envoient, vous croyez que c'est les mêmes jeans, c'est la même qualité qu'on envoie aux États-Unis, mais c'est tous les jeans. Ça veut dire quoi? Moi, je pense aujourd'hui, quand on parle de transport routier, je pense que dans tous les domaines, il doit y avoir des états généraux. Les états généraux doivent s'inspirer de quoi? De notre vision. Quelle politique devrons-nous avoir? Où est-ce que nous sommes en train d'aller? Quel est le système moderne que nous voulons emprunter aujourd'hui? Où est-ce que nous voulons aller? Sinon, on n'a pas ça. Moi, je pense qu'on va faire qu'on fait des choses et puis c'est fini. Aujourd'hui, moi, on était avec Maître Deglier il y a deux semaines, peut-être deux ou trois semaines. Il disait que Fonia Singbe, il a fait les routes. Oui, les routes qu'on a faites en 2010, on ne peut plus faire les mêmes routes en 2025. Ça veut dire que le monde a tellement évolué. Alors, ce que moi, je voudrais demander à nos dirigeants, c'est de se dire, c'est de s'asseoir pour dire dans tous les domaines, états généraux, santé, où est-ce que nous sommes en train d'aller? Regardez par exemple les hôpitaux aux États-Unis. Regardez le niveau d'évolution. Est-ce que nous avons le même niveau d'évolution ici? Non, il faut qu'on arrive à s'adapter. Alors, il faut mettre les moyens. Transport aujourd'hui, regardez nos routes que nous avons. Est-ce que ces routes-là s'adaptent au système moderne? Peut-être le nombre d'accidents que nous avons ici, vous ne les rencontrerez pas aux États-Unis. Encore moins peut-être en Allemagne, en Europe, dans tous les pays d'Europe. Parce que quoi? Ils ont fait des états, ils ont une vision. On dit non, à tel niveau, on doit avoir telle route. Voilà la capacité, voilà la mesure, voilà les voitures qui doivent circuler sur cette telle route. Alors, parallèlement, on forme des citoyens. On dit pas, ils ont les règles contraventionnelles, vous devez les respecter. Vous voyez, tout va de pair. Donc, si on n'a pas ça, on va peut-être combattre les brèches. Peut-être on va dire oui, circulez moins, ne circulez pas trop. Faites ceci, on va toujours avoir les mêmes résultats. Tout dépend de notre vision. Fonia Singbe, il a eu une politique extraordinaire de route. Vous savez, quand vous allez à l'intérieur, il y a des routes qui se font de la façon extraordinaire. Quand vous quittez Bassa, Dapan, parce que c'est ce que je reproche au gouvernement togolais, il y a des informations qui ne passent pas normalement. Il y a des choses intéressantes qui se font à l'intérieur, mais on ne communique pas dessus. Il y a des choses extraordinaires. Parce que par rapport aux routes, il y a beaucoup de choses qui ont évolué à ce niveau-là. Mais moi, je dis aujourd'hui, il faut qu'on s'adapte au monde moderne. Sinon, on va toujours avoir les accidents. Les routes là, il faut qu'on revoie nos capacités. Les voitures qui doivent circuler, mais les populations, comment on doit les former? Si on arrive à avoir ça, peut-être on aura des routes comme des routes françaises, des routes américaines, et on aura moins d'accidents parce que en face, on aura des citoyens qui sont habitués à ces routes et qui maîtrisent un peu les règles contraventionnelles. Quand on parle de règles contraventionnelles, c'est des règles qui sont relatives au respect du code de la route par rapport aux usagers.
D'accord. Oui, mais Cyril, c'est vrai que ces règles ne sont pas respectées souvent par les citoyens ou les usagers, ce qui crée alors des accidents, oui, mais au même moment, on voit quand même qu'il y a un fait qui participe justement à cette situation, c'est qu'il y a les forces de l'ordre, non, il y a les forces de l'ordre, bien sûr, sur la route, mais qui déjà, au cours alors des contrôles, on préfère peut-être alors recevoir quelques dessous de table et rapidement, le jeu est tellement fait.
Oui, bon, moi je crois que je ne vais pas aujourd'hui traiter les forces de l'ordre et des fonds de corrompus ici, parce que ce sont des gens, des personnes comme nous qui font un bon travail. Si aujourd'hui, une force de l'ordre ou un militaire ou un agent de la sécurité t'arrête sur la voie publique, mais, et toi-même, tu lui tends quelque chose, mais la cause c'est toi. Mais si tu es en règle, pourquoi pas? Maintenant, ce que nous allons leur demander, il faut que ces forces de l'ordre, surtout nos amis de la DSR, nos amis de la brigade motorisée, de la police nationale, comme de la GN, de la gendarmerie nationale, c'est là même je profite aussi pour saluer l'initiative que le directeur général de la police nationale a prise cette semaine pour aller sensibiliser les responsables de la brigade motorisée sur les cas d'accidents, les accidents de route, comment faire les constats, etc. Mais je crois que le fait que, entre guillemets, la corruption, si je peux le dire comme ça, c'est-à-dire moi qui suis arrêté, je n'ai pas de papier, j'essaie d'amadouer l'agent. Je crois que c'est moi qui serai le fautif dans toutes les situations ou dans tous les cas, ça peut y arriver parce que ce n'est pas les mêmes forces de l'ordre là, ce n'est pas tout le monde qui est bon. Il y a des brebis, hein, il y a des gens aussi qui sont égarés, qui sont là, aussi, il faut se poser la question, pourquoi avec 1000 francs, avec 2000, on arrive à subjuguer, si je peux le dire comme ça, ces gens. Il faut aussi rappeler qu'il faut voir aussi leurs conditions de vie et de travail. Je crois que le fond du problème, je crois que c'est ça. Si aujourd'hui, un agent ou un policier, un gendarme est bien traité par l'État, ben, je crois que prendre 1000 francs chez un citoyen lambda, comme chez un pauvre comme moi, ça serait très difficile. Parce que je serais déjà interpellé par sa conscience. On parle aussi de la conscience professionnelle. Je ne peux pas être un agent, je suis sur la route, on me paie pour ça, l'État me paie pour ça, et je vais me mettre encore à escroquer ou à prendre des fonds, ou à prendre de l'argent sur les citoyens. Je crois que c'est pénal. Il y a même des gens, des forces de l'ordre qui ont fait frais, qui ont été même radiés purement et simplement de leur corps. À cause de ces faits-là.
D'accord. Oui, mais oui, Monsieur Kofi, oui. C'est vrai que aujourd'hui, le MMLK, le mouvement Martin Luther King de Pasteur Edo Kumi, exige un État, ouais, des États généraux, des transports routiers. Mais la question de savoir qui doit prendre l'initiative.
Ben, Pascal, de toutes les façons, nous savons que dans chaque pays, il y a des dirigeants. Si on doit convoquer des États généraux, ce n'est pas aux citoyens lambda de le faire, ce n'est pas une association non gouvernementale de le faire, c'est à l'État de faire ça. C'est à l'État d'organiser ce genre de rencontres et de faire en sorte que ceux-là qui ont la compétence, ceux-là qui ont l'expertise en cette matière-là, de pouvoir se retrouver, et aussi une partie de la société civile ou bien des citoyens qui sont désireux de proposer quelque chose de bon.
C'est-à-dire les acteurs impliqués dans le domaine.
Bien sûr, bien sûr. Mais parce qu'au-delà de ça, il y a une question qui m'a toujours taraudé l'esprit. Lorsque Cyril parlait tout à l'heure de la DSR, vous savez, je me pose une question. Pourquoi est-ce que dans l'exercice de leur fonction, les agents de la DSR ne contrôlent pas les motos? Vous allez voir que des fois, il y a des gens qui sont sur les motos, sans casque, ils les dépassent, ils ne disent rien, mais ils sont seulement concernés par les voitures.
Oui, les agents.
Je n'ai jamais compris cela. Je ne sais pas si on pourrait avoir une clarification de ce côté-là. Pourquoi est-ce que les agents de la DSR ne contrôlent pas les motos?
D'accord.
Oui, moi, je veux me dire quelque chose, une petite chose par rapport aux forces de l'ordre, forces de sécurité, aux forces de l'ordre sur la route. Moi, excusez-moi, mais moi, quand on parle de corruption et puis on cite les forces de l'ordre, moi, je ne suis même pas d'accord. C'est nous les premiers corrompus. Nous, usagers, là, c'est nous les premiers corrompus. Ce ne sont pas ces forces de l'ordre. Si, par exemple, tout le monde était en règle, je ne vois pas peut-être un agent de la sécurité.
Demander l'argent.
Et là, le pire, c'est que quand nous sommes en faute, nous sommes en tort, c'est nous les premiers à attendre. On t'arrête tout de suite et puis tu vas me dire, ah, mais chef, tu tends quelque chose, alors qu'on ne t'a même rien demandé. C'est nous les premiers corrompus. C'est nous, ce ne sont pas ces forces-là. Moi, sur ce point, moi, je les défends. Bien sûr, on parle de brigade, oui, tout ça. Mais ceux qui encouragent ça, là, c'est nous. Quand on parle de corruption, tout ça, c'est nous. Par exemple, quand vous allez à l'Amérique, quelquefois, moi, je vous le dis, personne ne va entendre. Regardez, quand vous allez à l'Amérique, vous voulez que votre dossier passe. Le moment où vous devez venir, peut-être l'après-midi. Mais vous avez besoin d'urgence de ce dossier. Et des fois, vous glissez quelque chose. Et quand on parle de la corruption de l'administration, qui corrompt? C'est nous qui corrompons. Alors, on doit changer d'abord. C'est là où nous parlons du civisme. C'est là où nous parlons du civisme. C'est-à-dire que nous devons respecter ces règles-là nous-mêmes. Nous devons être disciplinés pour ne pas accuser à l'avenir les agents de l'administration. C'est nous les premiers corrompus. Donc la corruption, là, quand on parle de corrompus, ou quand on parle de corruption, il y a corrupteurs d'abord, avant corrompus. Les premiers corrupteurs et les premiers corrompus, c'est nous.
D'accord. Et ce qui est sûr, cela est devenu même d'ailleurs des règles sur certaines routes, hein, où on vous donne même des numéros. Kofi?
Pascal, je pense que ce que nous sommes en train de dire ici, c'est dangereux pour nous, pour notre avenir en tant que nation. Écoutez, entre celui qui commet un acte de corruption et celui qui est victime de cet acte, il n'y a personne à être exempté. Tous deux sont coupables. Si nos agents de force de l'ordre sont bien formés à éviter tout acte de corruption, je ne pense pas que un citoyen même oserait tendre de l'argent à un agent des forces de l'ordre.
Parce que c'est à la suite d'une infraction. Et pour corriger l'infraction, tant plutôt de l'argent, et là on reçoit.
Mais si l'argent a été formé de façon à rejeter de l'argent a rejeté une tentation
de
corruption, je pense que nous ne serons pas là. Si aujourd'hui, je suis en train de circuler sur nos routes et que je suis en infraction, et qu'au lieu de me soumettre à la rigueur de la loi, je tends de l'argent à l'agent de force de l'ordre, et qu'il me dit « Non, monsieur, je ne prends pas votre argent, faites attention, sinon vous aurez des problèmes, je ne pense pas que la prochaine fois je le ferai. » Ou bien ceux-là qui sont en train de regarder ce qui se passe, ils ne seront pas tentés de faire la même chose. Mais quand je suis en infraction, au lieu de me soumettre à la loi, je donne de l'argent et que l'agent prend. Ceux-là qui sont derrière moi, qui sont aussi en infraction, vont faire la même chose. C'est vrai que nous sommes les premiers corrompus, mais il nous appartient en tant que nation de savoir comment former nos agents à rejeter tout acte de corruption. C'est très important.
Moi, je voulais un peu revenir sur les états généraux, de l'organisation des états généraux
des transports routiers.
Je crois que c'est une bonne initiative. Et l'autre fois, même Léa...
C'est une exigence que le mouvement
Il y a plusieurs associations qui ont même... Déjà enclenché même le processus d'organisation. Je parlerai de l'association togolaise des conducteurs professionnels des conducteurs professionnels des grands engins du Togo. C'était même le mercredi dernier au niveau du port. C'est une association aussi qui travaille comme l'association Martin Lutanque, mais eux, ils sont spécialisés dans le transport, qui ont même lancé l'initiative l'autre fois, parce que parlant des accidents de route aujourd'hui, c'est trop. Et il faudrait que l'État aussi prenne ses responsabilités en organisant cet état généraux du transport. Et comment le faire? Il faut associer aussi les gens. Même nous qui sommes ici aujourd'hui, il faut associer les journalistes, il faut associer les usagers de la route. Parce que la plus grande partie des victimes, c'est nous qui sommes des usagers de la route. Il faut associer aussi les associations des transports, les associations comme il faut les associer aussi, réfléchir, voir comment. Parce que vous n'êtes pas sans savoir aussi que parmi les causes des accidents de route aujourd'hui, il y a aussi l'état de nos routes. Il y a l'état de nos routes. Si aujourd'hui vous prenez la voie de Assigamé jusqu'à Agouet, passant par Colombe de la Paix, etc., mais c'est rien que des escaliers. Vous prenez un peu Didjoli, mais cette voie qui était pavée aujourd'hui, il y a certaines parties même qui n'ont plus de pavé aujourd'hui. Tout ça là, il faudrait que l'État réfléchisse. Et maintenant, les sociétés aussi, vous n'êtes pas sans savoir. Vous vous rappelez de l'accident d'Agouet l'autre fois dans lequel nous avons perdu 8 citoyens. Jusqu'alors, l'enquête prédominante, c'est où? Il faut aussi tout ça là.
D'accord.
Oui, Fibin? Oui, non, moi je voulais ajouter juste deux petites choses. Quand Monsieur Kofi parlait d'agents bien formés. Vous savez, aux États-Unis, nous avons les agents les mieux formés, les trop bien formés aux États-Unis. En France, on a des agents les plus performants sur nos routes. Mais il y a la corruption là-bas. En France, policiers prennent l'argent. Aux États-Unis, ils prennent l'argent.
Malgré qu'il y a les caméras partout.
Mais il est très important quand même que ce qui est bon, ça soit enseigné.
Oui, non, en fait, je ne fais pas l'apologie du mal. Je fais juste l'apologie du réalisme. Je ne dis pas que le fait de prendre de l'argent, c'est une bonne chose. C'est juste quand il va de former. C'est-à-dire le truc va au-delà de la formation. C'est-à-dire, aux États-Unis, vous avez les agents de force de l'ordre qui sont très bien formés. Mais ils prennent de l'argent. En France, c'est la même chose. Il y a des enquêtes. Et on prend de l'argent et puis on dénonce après. Le problème, je pense que ça va au-delà de la formation. C'est une sensibilisation qu'il faudrait faire. Et aussi un changement de comportement tout d'abord à notre niveau, nous, usagers, qui utilisons d'abord ou qui empruntons les voies. Maintenant, La deuxième chose que je voudrais faire observer, quand vous disiez tout à l'heure, vous posez la question à Monsieur Kofi, par rapport à qui doit donner le ton, ou qui doit avoir l'initiative, qui doit commencer, ou qui doit peut-être engager les États généraux. Moi, je me dis que c'est le président de la République. C'est lui le patron, c'est lui la plus grande vision. C'est lui qui dirige le pays. C'est lui qui dit, ah, dans le domaine des transports, c'est ce que moi je veux pour mon pays. Et parallèlement, il doit avoir des agents, c'est-à-dire un ministre qui s'inscrive dans cette même vision. Et il lui dit, monsieur le ministre, c'est ce que je veux qu'on fasse dans ce domaine-là. C'est peut-être le président de la République. Il a une très bonne vision, mais attendez, il ne va pas être à tous les niveaux. Là. Il n'est pas un omnipotent. La meilleure des choses, c'est d'avoir une équipe qui s'inscrive dans cette vision-là. Si le pays peut avoir une très belle vision, mais s'il n'a pas équipe, s'il n'a pas un ministre qui s'inscrive dans cette vision, mais je pense qu'on va toujours patauger, on va toujours tourner en rond. La meilleure des choses, il faut que notre président de la République, il réfléchisse à cela. Je me rappelle, en 2013, on devrait organiser les États généraux de l'éducation ou de la santé. Ça devrait être santé ou éducation. Mais on n'avait pas pu l'organiser. On s'était abstenu de le faire. C'est le moment de réfléchir à tout cela pour voir au niveau des transports, comme le MLK le demande, au niveau de la santé, comme tout le monde le demande, et au niveau de l'éducation, parce qu'en réalité, le monde éducatif sur le plan universel est en train d'évoluer. Les réformes historiques que nous avons, c'est les réformes de 1975. Il faut qu'on aille au-delà. Les réformes de 2025 sont où? Il faut qu'on réfléchisse à ça pour pouvoir faire ce genre de réformes.
D'accord, nous allons quitter le sujet. On va s'intéresser à un autre sujet. On va s'intéresser à ce forum régional sur l'autonomisation économique des femmes et la promotion de la jeune fille. C'est vrai, il y a ce forum qui s'est tenu à Lomé, dans la capitale togolaise. Et c'est un forum qui s'est déroulé sur 2 jours. Et on a vu déjà 22 pays hein, qui se sont regroupés à Lomé hein, pour s'intéresser à cette question de l'autonomisation économique des femmes et de la promotion de la jeune fille. Et c'est sous la bannière même d'ailleurs de la Banque mondiale. Kofi, si tant est que le Togo est choisi pour organiser un tel forum régional, ça veut dire que le Togo fait bon élève quand même dans le domaine.
Pascal, moi j'ai toujours dit que quoi que nous disions aujourd'hui par rapport à la gestion de notre pays, il faut reconnaître au moins que dans certains domaines, le gouvernement fait des efforts. Dans le domaine de la promotion de la jeune féminine, dans le domaine de la mise en place des structures légales de base, des instruments légaux de base pouvant protéger la jeune fille dans sa totalité, je pense que le gouvernement est en train de bien faire. Et c'est ce qui amène les acteurs internationaux tels que la Banque mondiale à faire confiance au Togo. Et nous ne pouvons qu'encourager le gouvernement togolais à aller de l'avant. Mais moi, j'ai une chose sur laquelle j'aimerais intervenir, toujours dans ce sens-là. C'est vrai que nous sommes en train de protéger la jeune fille. C'est vrai que nous sommes en train de faire en sorte qu'elle aille à l'école normalement. C'est vrai qu'on lui ouvre la porte de la grandeur, si je peux le dire ainsi. Mais il y a un aspect que nous oublions. Dans nos maisons, peut-être pas à Lomé, mais dans les zones reculées de notre pays, la jeune fille ne représente rien. Si je dis rien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vis-à-vis du partage du patrimoine paternel, la jeune fille n'a pas mot à dire. Et je pense que c'est un aspect très important que le gouvernement doit regarder, parce que si nous sommes dans une même famille, peut-être que nous sommes 2 garçons, 2 filles, et que à la mort de notre géniteur, ce sont seulement les garçons qui ont le droit d'avoir accès à ce que papa a laissé, c'est totalement injuste. Donc il ne faudrait pas qu'on s'arrête seulement sur la mise en place de textes qui protègent la jeune fille. Il faudrait qu'on aille de l'avant pour faire en sorte d'appliquer nos textes dans les zones reculées où les gens sont encore amenés à léser la jeune fille dans ses droits.
D'accord. C'est vrai, il y a des journaux qui sont revenus sur le sujet. Le journal L'Union est revenu sur le sujet. Le journal écrit « Autonomisation économique des femmes ». et éducation des filles, le Togo dans le bon wagon. Et autre journal, c'est Togo Matin qui titre « Jeunes filles et femmes, les progrès du Togo doivent servir de modèle à d'autres pays africains ». Alors, quand on s'intéresse bien sûr à cette question alors d'autonomisation de la femme, autonomisation économique de la femme et la promotion de la jeune fille, et est-ce que vous voyez vraiment que le Togo en est un modèle?
Non, vous savez, je vais vous dire quelque chose de très banal. Peut-être ça vous ferait. Vous savez, nous sommes quatre garçons dans ce studio. C'est grâce à qui? C'est grâce aux femmes. Donc, ça veut dire sans femmes, il n'y aurait même pas Canal FM. Hein. Le directeur, je pense que le directeur de cette maison, c'est un homme. Donc, sans femmes, peut-être, s'il n'y avait pas de femmes, peut-être on n'aurait jamais ce directeur. On n'aurait jamais, nous quatre qui sommes ici. Ça veut dire, si nous sommes en train de progresser, si nous arrivons à avoir de l'argent ou à avoir quelque chose ici, vous par exemple, vous qui travaillez ici, à la fin du mois, vous avez quelque chose, c'est grâce aux femmes. Ça veut dire économiquement, déjà, la femme, elle contribue indirectement. Mais si ce n'est pas votre maman qui travaille ici, mais c'est elle qui vous a envoyé ici. Sans elle, peut-être, vous ne serez pas ici. Sans elle, vous ne serez pas en train de contribuer au développement de notre pays. Donc, juste dire que les femmes, elles jouent un rôle important dans notre vie. Parce que sans ça, la femme, il n'y aura pas d'accouchement, il n'y aura pas de garçon, il n'y aura pas de fille. Donc les femmes qui nous écoutent doivent savoir qu'elles sont importantes pour nous. Sans elles, on n'existerait pas. Alors coucou à toutes les femmes, à toutes nos mamans, à toutes nos épouses, à toutes les femmes aujourd'hui qui sont des pots de responsabilité dans notre pays. Alors pour venir à votre question, vous savez, le Togo est en train de faire des efforts extraordinaires en ce qui concerne, comment on les appelle, leadership féminin ou émancipation de la femme. C'est des termes techniques comme cela.
Tout à fait.
Vous savez, le Togo a fait des efforts historiques. Historiques, vous savez, aujourd'hui, nous avons eu dans ce pays une ministre qui a occupé la défense. Ça ne s'est jamais passé. C'est quelque chose d'extraordinaire. Les Allemands ont essayé ça aussi, entre temps, mais ça n'a pas marché. Le gouvernement sortant de la sorte, il y avait une ministre de la Défense. Le Togo a eu une ministre de la Défense. C'est quelque chose. Vous voyez, par exemple, le secrétariat général de la présidence de la République. Aujourd'hui, nous avons une femme. Dans l'histoire du Togo, on n'a jamais eu
même
ça.
Même à la primature.
Mais je vais en venir. Mais regardez, mais dans l'histoire de la France, jusqu'à présent, on n'a jamais eu une secrétaire générale de l'Élysée. On n'a eu que des secrétaires, donc les collègues et tout ça. Mais ici, on a eu ça. Donc ça veut dire que c'est un effort extraordinaire. C'est-à-dire confier le secrétariat général de la présidente de la République à une dame, c'est quelque chose parce que vous avez tellement de dossiers. C'est dense, c'est immense. Ça veut dire que cette dame qui occupe peut-être cette place a quelque chose d'extraordinaire. Ça veut dire qu'elle a une intelligence immense. Vous comprenez? Ça veut dire si on est arrivé à ce niveau, ça veut dire que nous sommes en train d'avancer. Dans ce pays, nous avons eu une présidente de l'Assemblée nationale qui a dirigé le Parlement togolais pendant plus de 5 ans. C'est quelque chose. Ça veut dire que nous avons des femmes extraordinaires dans notre pays. Ici, Premier ministre, vous savez, dans l'histoire du Togo, tous les premiers ministres que nous avons eus n'ont pas pu faire 5 ans, à part Klassou. Même Sibanous Olympio, qui a été président du Conseil Premier ministre, il n'a pas pu faire 5 ans. 58 à 61, 3 ans. Même je connais Kofi Go, les Dem Kodjo qui ont suivi, n'ont pas fait 5 ans. Seul Klassou a pu faire 5 ans. Mais la première femme que nous avons à la tête de la primature, qui est Premier ministre, elle est en train de boucler 5 ans. Madame Victoire Tomega Dobé, 5 ans pour diriger une primature. Même regardez, dans l'histoire de la France n'a jamais eu une première. Edith Cresson, qui a été Premier ministre, n'a pas pu faire 5 ans. Ça veut dire qu'en réalité, le Togo a eu des femmes extraordinaires qui ont des bagages. Donc, pourquoi ne pas s'intéresser à nous? Donc, c'est sur cette base, peut-être, que la Banque mondiale se dit, mais ceux-là, ils sont en train de faire des efforts extraordinaires. Pourquoi ne pas les soutenir? Pourquoi ne pas venir organiser une conférence comme ça, du genre, dans ce pays? Donc, moi, je dis, sur ce point, on peut applaudir ceux qui dirigent, parce qu'on fait des efforts extraordinaires en termes de, les femmes appellent ça, les femmes ont des postes de responsabilité. Donc, bravo. Mais là, il y a un aspect aussi important que nous ne devons pas oublier.
Oui, lequel?
Kofi a touché ça. Monsieur Kofi, excusez-moi, monsieur Kofi a touché ça. Qui, regardez, dans nos villages, des tests sont là. Mais est-ce que ma grand-mère connaît le test là? Est-ce que nos petites soeurs qui sont dans des coins reculés de notre pays, on peut facilement les tricher? C'est le moment d'appeler encore plus de sensibilisation. Parce que les tests existent. Nous, on est dans la sensibilisation. Sur aidez-nous seulement. On va aller dans la localité. Dire aux gens, regardez, respectez les droits et devoirs de la femme. Les femmes, vous aussi, voici vos droits, voici vos devoirs. Vous pouvez les revendiquer. Si les tests sont là, ils sont juste, ces tests s'arrêtent en ville ou peut-être à certaines localités. Moi, je ne pense pas que ces choses à l'intérieur de notre pays puissent véritablement évoluer.
D'accord. Oui, Cyril, est-ce que vraiment on n'a pas l'impression, tel que les deux intervenants l'ont dit, est-ce qu'on n'a pas l'impression l'impression que le projecteur est plus mis sur des femmes intellectuelles et que ceux qui sont peut-être à la maison, dans les villages, et finalement sont en quelque sorte mis en marge lors de cette promotion économique à l'heure de la femme.
Je crois que c'était ça, parce que aujourd'hui, si vous n'êtes pas vous êtes femme et vous n'êtes pas instruite, vous ne pouvez pas occuper des postes de responsabilité. Je crois que c'est pour éradiquer ce fléau que l'État a rendu au moins la scolarisation des femmes gratuites.
Des jeunes filles, surtout.
Des jeunes filles, oui. Bon, jeunes filles qui deviendra la femme demain. Donc, des jeunes filles, comment l'appelle-t-on, gratuites. Aujourd'hui, dans tous les aspects, l'État est en train de prendre soin des femmes avec le projet Ouzou, je crois, qui prend bien soin des femmes enceintes. Il y a même des projets qui sont initiés par Anadep, qui donnent des petits fonds de commerce aux femmes, tout ça là. Donc je crois que tout ce que mes prédécesseurs ont dit, c'est dans ce pays que nous avons connu une ministre des armées, c'est dans ce pays que nous avons connu une présidente de l'Assemblée nationale, et même je crois, peut-être je peux le prédire, que peut-être la prochaine présidente du Sénat pourrait être une femme aussi. Tout est possible dans ce pays. Donc je crois que c'est une bonne initiative de la Banque mondiale que le Togo est devenu aujourd'hui un cas d'école dans la promotion de la gente féminine. Et vous n'êtes pas sans savoir, aujourd'hui, nous avons même des femmes qui sont des mères, nous avons même des femmes qui sont des chefs cantons. Il y a plusieurs femmes aujourd'hui qui sont des chefs cantons. Donc je crois que la Banque mondiale ne s'est pas trompée. Aujourd'hui, c'est une réalité, le Togo est devenu un cas d'école dans la promotion de la gente féminine.
Un cas d'école, mais Kofi, la question de savoir, mais est-ce qu'il ne faut pas aujourd'hui miser plus alors sur aussi ces femmes qui sont à l'intérieur du pays, qui peut-être sont des femmes leaders, bien sûr, et qui ont fait émerger même d'ailleurs des talents, des compétences qui servent le pays aujourd'hui.
Parce que je crois que je l'avais déjà dit, c'est important pour nous de ne pas seulement appliquer nos visions, bien notre vision pour l'avancée de notre pays, seulement dans la capitale ou bien dans les endroits proches de la capitale. Et vous venez de le dire tout à l'heure, il y a des femmes à célébrer dans les coins et recoins de ce pays, des femmes qui ont su faire ce qui est important pour avancer à leur manière notre pays, pour faire avancer à leur manière notre pays. Il y a un adage qui dit ceci, éduquer une femme, éduquer un homme, vous éduquez un individu, mais éduquer une nation, une femme, vous éduquez toute une nation. Voilà. Ce serait intéressant si le gouvernement commence par aller dedans, à identifier ces femmes-là qui ont posé des actes concrets, des actes louables, allant dans le sens de l'avancement de leur vision. Je pense que s'ils arrivent à commencer par célébrer ces femmes-là, c'est encore un pas vers l'avant pour nous. Mais il y a aussi un aspect qui m'importait, que je voulais soulever. Je pense que je ne sais pas si l'opportunité m'est permise de soulever cela.
Allez-y.
Écoutez, c'est bien de dire que, bon, voilà, nous protégeons la femme. Mais nous savons tous que la femme, c'est un sexe faible. Moi, un aspect qui m'est très important, c'est de pouvoir les protéger contre les agressions sexuelles. Je crois que le gouvernement déjà fait des pas dans ce sens-là. Mais moi, j'ai des idées qui pourraient aussi nous aider. Vous savez, lorsque peut-être une jeune fille revient du champ, par exemple, ou bien revient de l'école, dans une zone comme peut-être un village de Dagne, par exemple.
On prend Asrama où la jeune Justine a été victime tout récemment.
Exactement. Lors de et qu'elle se retrouve seule sur la voie, et que peut-être de nulle part sortent deux garçons tentant de l'agresser sexuellement. Est-ce que ce ne serait pas bien pour nous de pouvoir former la jeune fille dès le bas âge, de façon à avoir les moyens de se défendre elle-même? Qu'est-ce que je suis en train de dire? Est-ce qu'on ne serait pas en train d'avancer si nous formons nos jeunes filles dès le bas âge dans le domaine des arts martiaux, des techniques de défense de soi? Parce que si cela est fait, nous allons réduire
carrément les situations d'agression sexuelle dont nos filles sont victimes. C'est bon de dire que, bon, voilà, si vous êtes victime, appelez-nous, nous allons vous défendre. Mais si l'acte est déjà commis, le dommage psychologique, le dommage que la jeune fille subit, c'est important. Mais si on peut poser des actes dans le sens de la prévention, allant dans le sens de la prévention de ces agressions-là, ça pourrait nous aider aussi.
D'accord. Oui, Fimé.
Votre question, elle est pertinente. C'est comme on néglige les femmes qui sont à l'intérieur du pays. Mais je vais vous poser une question aujourd'hui. La dernière fois que vous avez mangé Gary, c'était quand? Moi, je suis en train de chercher.
Ah, c'est hier seulement.
Tu as mangé Gary hier. Ça veut dire sans femme, on n'aurait pas Gary. Vous avez mangé la pâte quand? J'ai mangé la pâte hier. Oui, hier. Oui, vers midi, j'ai mangé la pâte. C'est fait avec du maïs. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu ces femmes-là, on n'aurait pas le maïs en ville, jusqu'à en faire aimant ou gari. Ça veut dire jusqu'à peut-être on n'aurait jamais cultivé du manioc. On n'aurait pas ce manioc-là. Il y a quelque chose qui se fait, qui continue toujours en Afrique. Lorsque je suis certains documentaires des pays orientaux et occidentaux, vous savez, au lendemain des indépendances, celui qui est un fonctionnaire tellement respecté que la dame qui est au champ. Parce qu'il s'habille en yovo, il va au boulot, il revient. Peut-être, il suffit juste que vous allez jusqu'à 3e, vous avez le BPC. Non, ce PD, simplement, on vous respecte. Vous pouvez écraser tout le monde. Celui-là qui n'a jamais mis pied à l'école, ou celui-là qui fait Gali pour vous, là, vous ne pouvez même pas le respecter. Je pense que la même tendance, ça se poursuit. Alors que quand vous suivez un peu ce qui se passe au niveau des occidentaux, vous allez voir qu'on organise des concours pour des boulangers. On organise des concours pour des cuisiniers. Pourquoi? L'intérêt, c'est au fait, c'est quoi? On dit, on essaie de valoriser pour faire émerger les talents dans tous les domaines. La meilleure des choses que nous pourrions faire ici, c'est d'arriver à réussir ce pari-là. C'est-à-dire identifier les meilleurs. Écoutez, on a dit que les plus riches, de ce, moi je promeux l'éducation, c'est-à-dire que tout le monde doit aller à l'école. Mais les richissimes de ce monde sont ceux qui ont moins de diplômes. Nous n'oublions pas. Moi, je le répète, sans nos mamans, on ne serait pas ici aujourd'hui. On ne serait pas en train de contribuer à cette émission. On ne serait pas là aujourd'hui. Donc, il faudrait arriver à identifier les stars dans tous les domaines, jusqu'à l'intérieur du pays. Peut-être à l'intérieur du pays, il y a une dame qui fait bien Gary. Pourquoi on ne peut pas organiser un concours pour voir les meilleurs Gary de la région des Sabanes, les meilleurs Boutoukoué de la région des Plateaux? Et toutes les caméras vont être braquées sur ça. Et là, ça va faire émerger, ça donne une certaine émulation. Si il n'y a pas ça, là, on va négliger. On va croire que le meilleur, c'est peut-être celui qui a le doctorat. Ça ne veut rien dire. Vous savez, je vais vous faire une confidence. Je connais un ami qui a un doctorat. Il chôme aujourd'hui. Vous comprenez? Il y a un ami qui a un doctorat. Il est en train de chômer aujourd'hui. Alors qu'il y a des talents qu'on peut faire facilement valoriser. Moi, je dis, moi, j'insiste toujours. Il y a des meilleurs cuisiniers aujourd'hui. On appelle ça les meilleurs chefs. C'est comme ça qu'on les appelle, non? Les meilleurs cuisiniers. Des femmes qui savent bien faire à des mains. Aujourd'hui, il y a des meilleurs restaurants dans nos petits coins. Peut-être Cyril connaît certains coins où peut-être on peut faire de beaux foufou. Ces femmes-là font des talents extraordinaires. Pour conclure. Je suis allé à Ouagadougou, il y a un coin là, quand vous passez, on dit que c'est une Togolaise qui est là-bas. On dit non, sans nourriture là, c'est très bon. Quand vous allez à Kara, il y a Navi. Je ne sais pas, il y a Navi, tout le monde va manger ses ailes. Mais on ne valorise pas, personne n'a jamais parlé de Navi. Alors que faire manger beaucoup, surtout quand vous allez pendant les ébats là, vous allez pendant les grands moments là, et c'est Navi qui sert. Est-ce qu'on connaît vraiment le nom de Navi, son nom et prénom? L'État n'a jamais fait ça. Donc, c'est le moment de faire valoriser tout le talent que nous avons dans les coins recoins de nos pays.
D'accord. Oui, ben on va s'intéresser maintenant à la politique. On s'intéresse, bien sûr, au sénatorial. Parce que, déjà, pas à pas, le Sénat doit être mis en place. Parce que le sénatorial, c'était le 15 février dernier. Il y a le journal Temps Nouveau qui est revenu également sur ces sénatoriales. Le journal Temps Nouveau écrit « Élection sénatoriale, issue évidente ». Et c'est ce que le journal écrit. Alors, nous avons tous ensemble connu déjà en début de semaine la confirmation des résultats provisoires de la CENI, bien sûr. Et aujourd'hui, là, on pourra dire quand même que les questions de sénatorial sont derrière nous. Est-ce que c'est ce qu'on peut dire déjà avec Cyril?
Non, je crois que c'est après le... sûrement avant le 5 mars prochain, le chef de l'État devait nommer les 20 autres. Parce que je crois que sans ça, le bureau n'est pas encore... où le nombre de sénateurs n'est pas encore complet. Donc, nous espérons d'ici peut-être semaine prochaine, lorsque le chef de l'État, c'est le chef suprême, le chef de l'État, qui va procéder à la nomination des 20 autres, pour que au moins pour qu'on ait les 61 sénateurs du Togo. Et là, c'est après ça qu'on dira que les élections sénatoriales sont déjà. Sinon, jusqu'ici, nous sommes toujours dans le processus de
la mise en place du Sénat.
Voilà.
D'accord. Monsieur Kofi, finalement, pour ce qui concerne les sénatoriales, pas à pas, le Sénat va être mis en place. Et c'est, comme le dira l'autre, c'est la 5e République qui est en marche comme cela.
Oui, c'est la 5e République qui est en marche. Nous avons déjà fini ou entériné l'élection des sénateurs. Il reste la partie de la nomination. Nous ne pouvons que prier que ça puisse aller rapidement pour qu'on puisse découvrir réellement ce qu'on nous vendait comme 5e République.
Concrètement, qu'est-ce qu'on nous vendait?
On nous vendait du renouveau. On nous vendait un renouveau démocratique, on nous vendait plus de droits pour les citoyens togolais, on nous vendait un bon fonctionnement de nos institutions. Nous sommes là en train de chercher à voir si vraiment ce qu'on nous a vendu est réel ou pas.
D'accord. Merci. Oui, c'est vrai que dans cette question de sénatorial, on a compris dans cette semaine même d'ailleurs, il y a la DMP qui a fait sortir un communiqué pour suspendre le parti Leni, parce que le mot d'ordre pour la DMP, c'est de ne pas participer à cette sénatorial, mais finalement, on a vu quand même que le parti Leni s'est aventuré dans ce domaine ou dans ce secteur, et finalement, ça a créé quand même de mésententes entre le regroupement politique et ce membre, c'est-à-dire l'ONI. Et finalement, est-ce que vous comprenez quand même cette suspension donnée à l'ONI?
Non, je pense que, vous savez, je vous dis quelque chose de bizarre en fait. Vous m'excusez. J'ai l'impression que l'ANC est toujours puissante. Et je viens de le dire ici, c'est-à-dire, c'est comme quand il y a des opposants qui ont toujours leur ligne, mais arrivés dans certaines situations, ils aiment toujours suivre la position de l'ANC. Je ne sais pas si vous comprenez. Quand j'ai vu un peu la position de FDR, c'est parce que l'ANC a dit je boycotte. Et l'FDR a dit nous aussi on va boycotter.
Non, mais est-ce que c'est ça? Ouais, tu ne vas pas me dire quand même que ce ne sont pas des responsables là-bas.
Non, vous n'avez pas. Non, quand vous suivez un peu leur ligne, pas ligne éditoriale, leur ligne politique. On va dire oui, c'est le radicalisme qui bouffe un peu, qui fait bouffer ou qui permet d'avoir un certain populisme, que j'appelle comme ça, un certain populisme. Donc il suffit que vous disiez non, 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 et puis les gens vont vous suivre. Donc je pense que c'est la DMK aussi, la DMP aussi s'est retrouvée dans la même situation en disant non, comme la ANC boycotte, nous aussi on va boycotter. Sauf que il y a quelque chose de grave qui arrive. Vous boycottez, vous devez mesurer toutes les conséquences. L'ANC dit, on ne participe pas aux élections sénatoriales. Pourquoi? Parce que 5e République, là, tout ça, ouais. La DMP dit, on ne participe pas aux élections sénatoriales. Mais est-ce que ça veut dire, électoralement, la DMP va finir? Madame Adjamabo qui va finir son mandat au Parlement, ça veut dire qu'elle n'aura plus, elle n'ira plus jamais à aucune élection dans ce pays. C'est la question qu'il faut se poser. Plus de ça, la 5e République, elle nous a déjà dressé tout son lit. Nous sommes tous régis aujourd'hui par la 5e République. Vrai ou faux, Pascal? Mais répondez. Bien sûr, c'est vous qui allez dire que c'est vrai. Non, est-ce que la DMP à l'avenir ne va plus participer à aucune élection dans ce pays? Si aujourd'hui, je peux comprendre leur position, c'est parce qu'ils ont dit oui, on ne participe à rien. On ne participe pas au sénatorial. Oui, c'est parce qu'elles se sont inspirées de la position de l'ANC. C'est politique. Mais de façon opportune, il faut réfléchir à ça. Est-ce que c'est fini sur le plan électoral? C'est quand vous suspendez les gens aujourd'hui, on m'a dit oui, c'est parce que c'est ce que vous avez dit. Vous avez accordé à dire que personne ne participe aux élections.
C'est ça la consigne.
C'est ça la consigne qui a été donnée. Mais, et après, il y a les élections municipales qui arrivent.
On verra s'ils
vont. Donc, s'ils vont, ce sera sur la base de quelle constitution? 4e République? Non, c'est-à-dire le 6, mais c'est fini. Et encore que si le chef de l'État arrive à aller vite, Cyril le disait tout à l'heure, normalement en avril, au plus grand tard, en avril, le premier jeudi du mois d'avril, selon la Constitution, la nouvelle Constitution, article 12, alinéa 2, le premier jeudi du mois d'avril, le Sénat va faire sa première session ordinaire. Et quand nous, le Sénat va faire sa première session ordinaire, le Sénat et l'Assemblée nationale vont se réunir quelque part en congrès pour élire le prochain président de la République. Et ça passe déjà. On aura le président du Conseil, on aura le Sénat, on aura l'Assemblée nationale, on aura le président de la République. Et puis, petit à petit, on va mettre les institutions en place. Et le 6 mai, c'est fini, la transition est passée. Et on est pleinement dans la 5e République. Et c'est la 5e République qui va organiser les futures élections. La DMP, je la respecterai toujours parce que c'est une femme très brillante. Elle a apporté beaucoup sur le plan démocratique à ce pays. Mais je me dis, il faut peut-être une petite cohérence pour pouvoir tenir dans le débat.
D'accord. Oui, mais Cyril, c'est vrai que déjà, le regroupement politique, la DMP, a déjà donné son mot d'ordre. Et finalement, ce mot d'ordre n'a pas été respecté par l'un des partis. Et c'est la ligne, bien sûr, alors du regroupement. Et donc, la conséquence, c'est que qu'il y ait suspension, c'est ce qui s'est passé. Est-ce qu'il n'y a pas de logique?
Bon, je crois que moi, depuis un certain moment, je ne fais plus confiance à nos opposants. L'autre fois, il y a un confrère qui a dit ici que on n'a plus d'opposants. Il y a certaines personnes qui se sont énervées, mais je crois que le confrère avait raison, parce que nous ne pouvons pas toujours nous inscrire dans une logique de boycott. Non. Les gens ont boycotté l'Assemblée nationale. Maintenant, il y a les élections municipales qui pointent à l'horizon. On verra s'ils vont participer ou ne vont pas participer. Vous savez, aujourd'hui, le pouvoir togolais est très intelligent. Et il essaie toujours de piocher les bonnes personnes de certains partis politiques. Je crois que c'est dans cette logique aujourd'hui, le pouvoir veut travailler avec ceux qui sont un peu ouverts à lui. Parce qu'on ne peut pas toutefois nous dire non, on ne va pas aller aux élections, on ne va pas aller aux élections. Vous intéressez à d'autres personnes de ne pas participer à ces élections-là. Maintenant, vous, peut-être dans l'avenir, vous allez encore, vous présenter à l'élection municipale. Je crois qu'ils sont en train de tromper le peuple et nous n'allons pas accepter.
Et alors, quand on prend M. Kofi, finalement, pour ce qui concerne cette question de principe, hein, prenons, c'est le principe même d'ailleurs de la ligne, hein, du regroupement, quand le regroupement dit que non, nous n'allons pas participer, finalement, un autre parti qui sort alors de ce regroupement et qui participe, quoi de plus normal quand même qu'il y ait des sanctions?
Pascal, c'est tout à fait normal lorsqu'il y a un groupe qui doit avoir des lois, des principes à respecter. Et lorsque vous allez à l'encontre de ces principes-là, de ces lois-là, vous devez être puni. C'est tout à fait normal que qu'un parti du regroupement ou bien du groupement de partis politiques,
la DMP
puisse sanctionner l'UNI pour son opposition à sa ligne directive. Je suis totalement d'accord. Mais moi, j'aimerais dire ceci. Quand on parle, les gens pensent que nous sommes contre certaines personnes, que nous sommes en train de donner carte blanche à d'autres personnes. Mais écoutez, lorsque vous êtes à la maison et que votre maman fait une nourriture et que vous vous dites « Maman, moi, je ne vais pas manger », vous devez être en mesure de faire en sorte que vous n'ayez pas faim. Quand vous refusez le repas qui vous est donné, faites en sorte de ne pas crier après « j'ai faim ». Parce que ce qui vous a été proposé, vous l'avez rejeté. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Entre boycott, participation et tout ce que l'opposition togolaise nous montre depuis des années, nous n'avons pas les moyens de les critiquer ou de dire « bon, vous êtes en train de faire du mal ou de ne pas faire du mal ». Mais ils doivent comprendre qu'il y a une partie importante de ce peuple-là qui aimerait qu'il y ait un renouveau au sommet de l'État. Si ils boycottent les élections, est-ce qu'ils ont des mesures? Est-ce qu'ils ont en tête un plan qui leur permettrait, dans quelques années, lorsqu'on aura encore des élections, de pouvoir accéder au pouvoir? Et pardonnez la tautologie. L'essentiel pour un politicien, c'est l'obtention du pouvoir politique. Parce que c'est à travers ça que vous serez en mesure de mettre en place votre plan d'action. Mais si vous êtes là, vous passez aujourd'hui, demain vous boycottez. l'autre fois vous participez. Vous faites quoi, au juste?
D'accord, ok. Non, mais on va quitter le sujet. Non, on quitte le sujet, on va s'intéresser au Gabon, puisque je l'annonçais justement dans mes mots introductifs. On dit un mot, alors sur le Gabon, on sait que déjà le général Nguema est au pouvoir et c'est lui qui assure la transition. Et également, déjà, cette transition, normalement, l'élection présidentielle a été annoncée pour août dernier, août prochain, j'allais dire, mais finalement, c'est le 12 avril, hein, puisque cette élection se fera plutôt le 12 avril. Et il y a des gens quand même qui demandent au général alors de se présenter à la... Il y a des mobilisations même d'ailleurs autour de cela, et où on demande au général alors d'être, de se présenter alors à la prochaine présidentielle. Alors, comment vous analysez cela, Firmin?
Non, je pense que l'analyse est simple. C'est une partie du peuple. On nous parle de la démocratie. Il a fait un coup d'État, ce qui est anormal, ce qui n'est pas normal. Je condamne toujours, moi, je condamnerai toujours les coups d'État. Mais c'est comme... il veut faire comme le Tchadien. C'est-à-dire qu'il veut éviter maintenant les critiques, lui-même veut se présenter maintenant pour se laver de toutes ces histoires de coups d'État pour devenir un peu légitime et républicain. Et il est dans cette dynamique, il va aller, c'est lui qui organise les élections, un général qui organise les élections, il serait difficile de perdre, parce que vous savez, il y a des années plus tôt, Papa Bongo, quand il était au pouvoir, il dit, mais comment on peut être au pouvoir, organiser les élections et les perdre? Donc, je pense, il était là quand Bongo disait ça, donc il ne va pas perdre les prochaines élections. Mais j'ai peur pour ce peuple-là. Quand vous dites à un militaire, un général, qu'il est au pouvoir, qu'il est le plus beau, et quand il va prendre le pouvoir, donc c'est là où vous allez voir qu'il avait aussi une partie vilaine. Vous savez, moi, j'ai eu à interviewer Maître Jussage avant, qui me disait, alors, à l'époque, j'étais sur une radio, et on organisait une émission par rapport au séquence. Ça fait déjà 15 ans qu'on avait organisé cette élection-là. Il dit, quand Yaya Demba était arrivé au pouvoir, de 1967 à l'attentat du Sénégal, c'était quand?
1974.
Il dit, les 7 années-là, Yaya Demba avait, Maître Jussage avant, il dit, Yaya Demba avait bien travaillé. Maintenant, qu'est-ce qui avait fait changer, selon lui, qu'est-ce qui avait fait changer Adema? C'était le retour triomphal, c'était le 2 février. Mmh. Il dit, quand tu vois la masse à l'époque, des gens qui étaient sortis avec le cœur à Adema pour exprimer leur amour à Adema, il y avait un secrétaire d'État français à la coopération qui était arrivé à l'époque et qui avait dit ceci. Il faudrait être un surhomme pour ne pas succomber après. Vous comprenez? Quand vous sortez et vous voyez tout ce monde-là qui sort pour vous, mais vous dites, mais vous devenez fou de la tête. Donc tout cela pour moi, pour conclure, quand vous allez au palais de congrès, et quand les artistes font leur show, et quand ils entrent dans les coulisses, vous leur lancez la première question, ils disent, mais tous ceux-là sont venus pour moi, et c'est là qui les rend fous.
D'accord, oui Cyril, sur cette question alors du Gabon.
Oui, je crois que officiellement le monsieur se dit bon qu'il ne va pas se présenter, mais la nouvelle constitution a été claire que il peut se présenter. C'est lui qui a donné les instructions. Maintenant, nous on verra s'il va aller ou il n'ira pas. Mais ce que nous on peut lui demander aujourd'hui. Faut pas que demain ou après ces élections-là, le Gabon devient encore ou devient un pays où règne le chaos. Parce que jusqu'ici, c'est vrai qu'il a fait un coup d'État, mais il n'y a pas eu trop de morts. Est-ce qu'il y a eu deux morts? Mais
on ne pense même pas.
Il n'y a pas eu deux morts, bien sûr. Oui, M. Kofi.
Pascal.
Pour le Gabon.
Je pense que si les textes fondamentaux de l'État gabonais permettent à Oligui Nguema de se présenter aux élections, pourquoi pas? Mais il appartient au peuple gabonais de décider si ou non il veut là-bas, qu'il soit maintenu. Mais écoutez, ce qui est important pour nous, nous devons comprendre que cette pagaille-là qui continue en Afrique, quelqu'un fait un coup d'État, il se maintient au pouvoir après une décennie, deux décennies, ça continue, une autre personne vient faire la même chose, ce n'est pas bon pour nous. Mais vous savez, si j'étais à la place d'Oligui Nguema, ce que moi j'allais faire, j'allais plutôt m'écarter pour le moment, permettre à une personne de gagner les élections, de gérer le pouvoir pendant un mandat, et après je reviens me présenter comme candidat. D'accord. Et je pense que cela le rendrait plus crédible aux yeux des Gabonais, aux yeux de la communauté internationale.
D'accord. Merci. Merci, chers confrères. Nous allons maintenant donner la parole à nos auditeurs. Je sais qu'ils s'impatientent à rentrer en ligne pour participer à ce débat avec nous. C'est sur nos deux numéros, 90-86-35-35-91-36-63-75. Également, nous écrire sur notre numéro WhatsApp, 90-45-78-57. Mais bien avant, nous faisons un clin d'œil à nos annonceurs.
93.5. Canal FM. Canal FM.
Nous sommes de retour dans cette émission Club de la Presse et maintenant nous nous ouvrons à vous. Vous pouvez nous appeler au 90 86 35 35 91 36 63 75. Premier auditeur en ligne. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô? Décidément, il n'a pas alors de retour. On passe à un autre auditeur, 90 86 35 35 91 36 63 75. Vous pouvez nous écrire aussi au 90 45 78 57. C'est notre numéro WhatsApp, 90 86 35 35. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour monsieur.
Comment vous allez?
Je vais très bien.
Votre nom c'est?
Je m'appelle l'Éternel des armées.
L'Éternel des armées, hein, c'est votre nom?
C'est mon nom.
Votre nom à l'état civil?
À l'état civil, secret. Je m'appelle Yaya Top Habib ou Nyakoube Habib.
Alors je prends Habib. Habib, vous nous appelez de quel quartier?
Je vous appelle Adaolato.
Adaolato, allez-y.
Mais là, je ne comprends pas votre. Votre politique, hein. Je suis l'éternel de guerre. Je suis très menacé. Je suis Nyasimbe. Je suis le seul héritier des Adéba qui n'a pas encore pris son héritage.
Monsieur Habib.
Attends.
Monsieur Habib. Allô, monsieur Habib. Allô. Décidément, il est parti. 90, 86, 35, 35. 91, 36, 63, 75. Si vous nous appelez. Le principe de l'émission, c'est d'intervenir sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Si vous nous avez écouté, vous nous avez suivi, intervenez sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour, M. Pascal.
Votre nom, s'il vous plaît?
C'est M. Mawena, Adidogon.
Ah, M. Mawena, depuis Adidogon, mais allez-y.
Je salue le plateau.
Le plateau aussi vous salue.
J'ai vu vos débats, c'est intéressant. Mais, Pascal, moi, je n'ai pas rien contre la nomination des femmes au poste de responsabilité dans ce pays. Mais ce qui me gêne, c'est que qu'est-ce que ça a impacté à la vie des Togolais et pour la précédemment la vie des pourtant du marché. C'est sur la responsabilité de ces grandes dames que les marchés sont depuis qu'elle n'a pas encore construit. Même c'est une dame qui utilise même le marché. Regardez comment nous nommons maman son marché dans le marché. C'est ça qui m'inquiète, quoi. C'est pas le fait de nommer les gens, les dames, les gens, les gens, quel est pas ça, je suis venu, je suis les femmes. C'est ça qu'on doit relever. Je ne sais pas ça. Bonne émission.
Merci beaucoup, monsieur Mawena, pour votre intervention. 90, 86, 35, 35, 91. 36 63 75 et notre numéro WhatsApp 90 45 78 57. Et bien sûr, allô?
Oui. Bonjour.
Bonjour Pélé, comment vous allez?
Oh, très bien.
D'accord, allez-y.
Bon, je voudrais faire une clarification à monsieur Kekou. Concernant le boycott, je pense que la DMP s'est prononcée bien avant l'ANC et la FDR pour le boycott. Maintenant, ce n'est pas, c'est ça qui est en jeu. L'enjeu est quoi? Qu'est-ce que cette direction-là va nous servir? C'est pour instaurer la 5e République, on le sait. Que nous sommes dans une transition pour aller à cette 5e République-là. C'est ça qu'il faut dire d'abord. Sinon, nous ne nous intervenons pas sur le fait qu'on boycotte ou pas. Les élections sénatoriales vont servir quoi à la DMP, à l'ANC et les autres. C'est ça qu'ils ont dit qu'ils boycottent. Maintenant, pour parler de tout à l'heure, vous avez parlé de les femmes que et, ce qu'on organise au Togo, la Banque mondiale, tout s'organise. Et M. Finet Teko disait que oui, et il y a la première ministre, Mme Tobega, qui est très bien. Mais c'est Mme Tobenga qui était là, qu'on battait Mme Adjemagbo comme députée, et ici, à Lomé. Les femmes députées qui étaient là, au Parlement, elles n'ont pas vu ça. Pour dire que les femmes sont ceci au Togo, c'est ça. Mais on a battu une dame comme ça. Et ces dames-là sont à l'Assemblée. 48 heures après, elles ont tenu leur séance, ou l'ouverture de leur séance, sans rien dire de ça. Et vous voulez nous dire quoi? Qu'on travaille bien, on travaille bien. Mais si on travaille bien, si le Togo travaille bien, le Togo, le gouvernement du Togo travaille bien, et que la Banque mondiale est venue, la Banque mondiale ne voit pas que la population marche dans les poubelles. La population togolaise marche dans les poubelles. Et que ce s'est passé au Togo, une fois, au temps de Yadema. C'est ça qui peut passer. C'est ce qu'il faut dire, vous les journalistes. Il faut décortiquer ça, il faut voir la réalité du Togo.
Merci beaucoup, Pélé. Je pense que la réalité dont vous parlez, chacun a sa réalité. Vous venez alors de le dire aussi. C'est pour cela même d'ailleurs que nous donnons la parole à tout à chacun de nous pour s'exprimer sur des sujets débattus ici au Club de la Presse. Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, comment vous allez?
Je vais bien, chez vous.
Ça va aussi. Votre nom, c'est?
Benoît Tadjoun.
Ah, Benoît, allez-y.
C'est être femme, mettre à la femme. Être premier, les femmes sont dans les institutions de l'État, qui fait un bon État. Et c'est la compétence. La compétence de la personne. C'est aussi le fait de durer, c'est ça qui fait l'affaire. Ce que tu viens pour apporter, pour résoudre un problème. Le grand marché d'après du grand marché, la seule plus de 13 ans, je ne sais pas trop, je sais pas encore. Il y a d'autres marchés qui sont brûlés. Les dames se sont. Elles se plaignent que quand il pleut, elles sont toujours dans l'eau. Les femmes qui sont les députés, qui sont à l'Assemblée avec dans le gouvernement. Nous n'avons pas raison. Si moi je suis le président là, l'Assemblée, là, je vais mettre en stand-by. C'est notre stand-by. Gouvernement, je serai bien personne pour travailler. L'argent là, c'est pour faire le chemin, c'est pour développer le pays.
Merci beaucoup, Benoît, et merci pour votre intervention. Bonjour, le plateau. Par rapport aux accidents de la route, je peux dire que c'est tout simplement de l'incivisme. Et il faut dire que tout est à l'image alors du pays. Si politiquement rien ne va, socialement aussi rien n'ira. Des fois, c'est les soucis qui sont les causes ou la cause alors des accidents. C'est Edmond qui nous écoute alors depuis nos pâteaux. Allô?
Allô?
Bonjour.
Bonjour. Bonjour.
Oui, votre nom c'est?
Habib. Je suis revenu. Je me présentais.
Oui, Habib. Allô, Habib.
Ah, oui.
Oui, mais si vous voulez.
Excusez-moi.
Oui, oui. Si vous voulez vous prononcer, prononcez-vous sur des sujets débattus ici au Club de la Presse.
J'ai compris.
Oui.
Excusez-moi.
Allez-y.
Oui, je suis membre d'un parti politique.
Oui, mais.
Peut-être, c'est ce que je vous dis.
Non, mais
c'est péché.
Habib.
D'accord avec la politique de Ford, de Macron, de Poutine, c'est galaciste. Je suis le terrain des armes. Quand j'ai parlé, ils n'ont qu'à démissionner.
Alors, merci, Habib. Je pense quand même qu'il faut quand même arriver à dire ce que nous avons dit tout au long alors de cette émission, c'est-à-dire les sujets. Nous voudrons quand même avoir votre point de vue là-dessus. C'est ça aussi le principe de l'émission. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour.
C'est M. Nyamavo.
C'est Nyamavo.
Allez-y.
Oui, salut, c'est la rédaction de développement. Et puis, c'est pour que je l'aide à rectifier quelque part concernant la corruption. Il dit qu'il n'encourage pas la corruption, mais il parle du réalisme. Je voudrais souhaiter qu'il parle, qu'il parle de tout le début d'un autre mot. C'est-à-dire que moi, j'avais dit ici que si on pouvait dans la plusieurs, je lutte contre des détournements et les assimilations, des inflations assimilées, et que ce soit la corruption, on comprendrait. Partout, il y a la corruption. Les juges, tout, même la revendeuse de voiture, il y a la corruption. Mais, comme dit un agent de l'État, j'encourage l'actuel directeur de M. Kaou. Si ça va se passer comme ça,
là, on va payer réellement les frais à la police. Que on te prenne et que tu aies payé 5 000, que tu sais, oui, c'est vrai que tu as fait infraction, tu as payé, ça va dans les caisses de l'État. Mais toi, tu restes sur la route, on te donne l'argent, tu prends, tu es voleur. Tu ne fais pas ton travail. Tu es voleur, tu voles l'État. Tu ne rends pas service à l'État, c'est un voleur. Bon, concernant les politiciens, laissez-les tranquilles. Comme vous le savez, ils vont vous surprendre. Quand il y aura les élections locales et consorts, ils vont pour solliciter la voix du peuple. Ils ne vont pas pour solliciter la voix des grands électeurs de l'Unir, comme les autres opposants l'ont fait. On leur a donné 7. Non. Si le peuple veut le changement, ils vont donner la voix à l'opposition et l'opposition va gérer les services publics. Vous allez voir. Bonne émission.
Merci beaucoup, Monsieur Nyamavo, pour votre intervention 90 86 35 35 91 36 63 75. C'est sur ces deux numéros que vous pouvez réagir au Club de la Presse. Allô? Allô, bonjour. Allô?
Allô?
Oui, bonjour.
Bonjour, le plateau.
Oui, votre nom c'est?
Kodjovi de Zangueda.
Ah, Kodjovi de Zangueda, allez-y.
Oui, s'il vous plaît. Arrêtons de diviser l'opposition. Dire que c'est l'ANC qui a décidé de boycotter. Donc, c'est pour cela que la DMP, le FDR, ou bien la FDR, ont décidé aussi de boycotter. Et ce n'est pas bien. À la FDR, à la DMP, il n'y a pas de gens qui réfléchissent. Ils n'ont pas de principe. Ce n'est pas bien, tout simplement.
D'accord. Merci, Monsieur Kodjovi, pour votre intervention. Nous avons encore quelques minutes pour recevoir notre dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission de ce vendredi 90 86 35 35. Allô.
Bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Mauto.
Salut, Pato.
Oui, j'espère que vous allez bien.
Moi, je vais vous dire que il y a certains qui sont mandatés pour faire la vague du cerveau au cerveau ici. Si les ANC, les autres ont boycotté, ça ne connaît pas les journalistes. Laissez les policiers. Ils ont fait leur politique. Nous n'avons pas besoin de la 5e République au Togo. Celui qui a l'habitude de comparer le Togo et la France, est-ce qu'il a ou pas vu les dirigeants français ont imposé un régime au peuple français? Jamais. Donc ça, c'est... Vous devez laisser ça quoi? Laissez de nous faire la bague du cerveau au Togo ici. Les politiciens vont aller aux élections dès que ça va arriver. Merci, bonne émission.
Merci, M. Mokto, pour votre intervention. Vous êtes le dernier auditeur pour le compte à l'heure de cette émission. Et je lis cette réaction de Rachid à Nekonakwa. Il nous suit à Nekonakwa, bien sûr. Le taux de mortalité routière est alarmant en Afrique et en Asie, en partie à cause d'un problème de mentalité, bien que ces régions profitent des avancées technologiques, elles tardent à les exploiter et à les améliorer. Le respect des règles de circulation est crucial et l'état doit veiller à leur application stricte. Les concessionnaires doivent aussi importer des équipements de sécurité de qualité car les casques actuels sont souvent inadaptés et mal entretenus. Il est temps pour les Africains de se réveiller et de changer cette réalité. C'est Rachid qui nous écoute à Nyekonakwe et c'est sa réaction bien sûr. Chers confrères, nous revenons en plateau pour faire un dernier tour de table et clôturer l'émission. Kofi, vous avez écouté les uns et les autres se prononcer aussi sur l'actualité. Soit vous pouvez revenir peut-être sur une intervention ou un sujet qui vous tient à cœur et dont on n'a pas parlé au cours alors de cette émission.
Merci Pascal. Moi je vais dire que ce n'est pas seulement le secteur de nos routes, des transports qui a besoin de des états généraux. Nous avons à l'heure actuelle dans notre pays besoin des états généraux de l'éducation parce que si vous regardez un peu dans la ville de Lomé, moi je ne suis pas allé à l'intérieur, vous allez voir que la plupart de nos bâtiments scolaires sont à ce jour vétustes.
ce ne sont pas des bâtiments qui ont été construits en prenant en compte le fait que dans 10, dans 15 ans, dans 20 ans, nous aurons une telle population, un tel nombre d'élèves. Et aujourd'hui, nous avons des bâtiments qui ne sont plus non seulement adaptés, mais qui n'arrivent plus à contenir la population estudiantine ou bien la population de nos élèves aujourd'hui. Je pense que nous sommes arrivés à un moment où nous devons repenser nos bâtiments scolaires. Et c'est ce qui m'amène à proposer que nous ayons, dans les meilleurs délais, des états généraux de l'éducation. Merci.
D'accord, merci, Monsieur Kofi. Oui, Firmin.
Je voudrais dire de petites choses. Il y a quelque chose dans toutes les interventions où des gens nous reprochent de ne pas trop bien ou d'avoir parlé des femmes. Vous savez, moi, abstraction faite de toute considération politique. Moi, j'ai parlé des femmes. C'est pour nous, ces femmes-là. Cette dame qui sont aujourd'hui premier ministre, secrétaire de la présidence, présidente de l'Assemblée nationale, ministre des armées, sont des Togolaises. Si nous avons des femmes au Togo qui sont arrivées à ce niveau, qui ont étudié malgré tous les obstacles, mais elles ont résisté, elles ont traversé des déserts, des périodes difficiles, mais sont arrivées à ce niveau-là, on doit leur dire bravo. Parce que sur cette planète, une femme qui réussisse, c'est difficile. Donc c'est pour cela que, oublions l'histoire de politique. Nous, on n'a pas parlé de politique. Moi, je n'ai pas parlé de Victoire Dobé comme, c'est-à-dire un membre de l'UNI. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je parle de l'individu, de la personne même, qui s'est battue pour devenir premier ministre. Qu'on n'a jamais eu au Togo, on n'avait jamais eu au Togo. Donc c'est quelque chose d'extraordinaire. Donc sur ce point-là, ça n'a rien à voir avec la politique. Moi, je dis individuellement, la personne s'est battue. Quand on a, les gens veulent que nous ayons un pays où on n'a pas de femmes qui émergent. Et c'est ça qui va leur faire plaisir? Non! Alors que ce sont des compétences. Elles ont des choses en elles qu'elles peuvent mettre à la disposition du pays. Alors, sur ce point, nous devons saluer cela. Et puis, la deuxième chose, quand les gens disent que la Banque mondiale n'a pas vu ci, pas ça, vous savez, les institutions internationales, là, elles ne raisonnent pas en termes d'émotion. Elles se basent sur des critères qui leur sont propres, en fait. Vous croyez que la Banque mondiale va se soucier des gens qui, peut-être, cherchent de la nourriture dans les poubelles? Vous croyez que les Occidentaux se foutent de ce qui se passe à Gaza? On tue les gens, ça leur dit rien, il y a des milliers de morts. Ça leur dit absolument rien. Parce que quoi? Chez eux, il y a des poubelles. Il y a des SDF qui mangent dans les poubelles. Moi, je veux un truc, l'autre fois où il y avait un SDF qui a passé 10 ans dans la neige. Vous croyez que ça leur dit quelque chose? Quand nous, on souffre, on galère dans les hôpitaux et autres, vous croyez que ça leur dit quelque chose? Ça leur dit absolument rien. Elles ont ces institutions ont juste leurs propres critères sur lesquels elle se base à nous maintenant, nous-mêmes, de travailler, de pouvoir relever le défi, pouvoir construire nos États.
D'accord. Oui, Cyril.
Oui, je crois que moi, je vais revenir un peu sur les cas d'accident dont nous avons fait cas ici. Je crois que la situation devient de plus en plus très, très alarmante et il faut inviter la population à plus de vigilance. Vous n'êtes pas sans savoir que le ministre...
Qu'est-ce qui est au respect du code de la route?
Voilà, je vais revenir sur ça. Le ministre de la Sécurité a mis un numéro vert à la disposition des usagers de la route, à la disposition de toute la population. C'est le 10-14. Il faut aussi limiter les vitesses. Aujourd'hui, toute la population est invitée à appeler le 10-14 pour alerter les forces de l'ordre et de la sécurité. Et si par exemple vous voyez aujourd'hui un véhicule qui est hors de gabarit, rapidement il faut alerter. Il faut alerter aussi sur les situations qui peuvent causer des accidents, le mauvais stationnement aussi, tout cela. Je crois que c'est ensemble nous devons mener cette lutte là contre sur le fléau relatif aux accidents quotidiens sur nos voies. Donc aujourd'hui, il faut aussi rendre un hommage à toutes les forces de l'ordre de sécurité qui essaient de faire ce métier de sacerdoce, parce que vous n'êtes pas certain que c'est du sacrifice qu'ils sont en train de faire pour nous. Ils sont là à veiller à notre sécurité, sans oublier aussi leurs responsables, les deux DG de la gendarmerie et de la police nationale.
D'accord, merci beaucoup Cyril Sablasso, vous êtes le directeur de publication du journal Le Républicain Info. Merci d'être passé alors dans cette émission. Merci à toi Fermet Akouagbo, chroniqueur, journaliste, et merci d'être passé alors dans cette émission. Ça fait fait plaisir de vous avoir. Merci à Kofi Annani d'être passé aussi dans cette émission. Vous êtes observateur et aussi analyste politique. Merci d'avoir animé ce débat avec nous. Merci à vous tous qui nous avez suivis, vous qui nous avez appelés, vous bien sûr qui nous avez appelés pour vos contributions à ce débat. Merci à vous. Merci à Kiki Sosa qui a assuré la mise en onde. Jérôme Dakouti a été à la mise en ligne. Je suis Pascal Lossou. Je vous retrouve lundi à partir de 11h pour un nouveau numéro de l'émission Club de la Presse. Ici, là, portez-vous bien. Vous passez un bon week-end. Au revoir.
Cette émission vous a été offerte par la bière Weichsteiner, aussi nommée Sikavi, une bière internationale d'origine allemande depuis 1753. Distribuée au Togo par la SNB. Weichsteiner, la vie dorée.